Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dès que nous reprenons la lecture du livre « Recouvre-le de lumière » Alain Moncouquiole chez Verdier Poche, nous découvrons aujourd'hui une autre facette de Christian. Sa passion, bien sûr, ce sont les taureaux, et nous le savons bien, mais nous allons découvrir aussi qu'il est guitariste. Reprenons donc cette lecture pour en savoir plus. Lorsque Christian s'imaginait sans les taureaux, il rêvait d'une petite pension à Madrid, d'où il repartirait à zéro pour devenir guitariste. « Si un jour j'en ai marre, si je deviens mauvais, si je n'ai plus de contrat ou bien si un taureau me fait mal, je sais que je ferai comme ça. » C'était son rêve, un rêve dont il ne parlait pas souvent, mais qu'il m'avait longuement évoqué à l'époque où il achetait une guitare pour la revendre à perte 2 mois après, puis en acheter une autre avec un son fantastique. Jusqu'au jour où le grand guitariste Serranito était venu le voir à Madrid, au Sanatorio de Torero, alors qu'il était blessé. Il lui avait dit que les meilleures guitares étaient les Ramirez. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, Christian était arrivé à l'hôtel fou de joie. Il avait sorti la Ramirez de son étui. « Regarde, elle ne pèse rien. Écoute le son. Je me demande si elle n'est pas trop bien pour moi. » Nous avons trimballé cette guitare pendant des années. Et à l'heure de charger la voiture ou d'embarquer dans des avions, la guitare devenait le sujet de toutes les préoccupations, de toutes les inquiétudes. Tu sais, c'est très fragile. Le moindre choc pourrait l'abîmer, un changement de température. Cette passion de la guitare, Christian l'avait découverte vers 12 ans, au bar Le Gitan à Nîmes, avec Joseph, Salva et Le Sourd. Ils avaient pris en sympathie ce gamin qui venait les écouter jouer et les observer sans rien dire. Un jour, le vieux Joseph lui avait demandé « Tu veux apprendre ?» Plusieurs années plus tard, Christian n'en revenait toujours pas. « Tu te rends compte? Ils ont compris que j'aimais ça. » Il se souvenait des expressions de Joseph lorsqu'il parlait avec passion de son idole Django Reinhardt. Tu aurais pu lui mettre 12 cordes ou un manche 2 fois plus long, c'était pareil. Quand il jouait, tu pouvais mettre un crêpe noir à ta guitare et aller la cacher dans un coin. Parfois, il passait des disques de Django et Joseph, le doigt pointé sur le micro-sillon, disait « Là, écoute ce morceau !» Il ouvrait alors les mains en éventail, les croisés en un rapide aller-retour, immobilisait ses bras en position écartée, mimant une sorte d'arrêt définitif qui signifiait « Après ça, tout est fini. Tu as entendu ?» bégayait-il. Si tout au long de sa vie, et aussi loin qu'il m'en souvienne, mon frère s'est toujours bien entendu avec les musiciens, c'est qu'il était comme eux, un homme passionné, exigeant, avec ce besoin formidable de se fixer des buts inaccessibles. Ce qu'il redoutait le plus, c'était l'ordinaire, le quotidien qui l'angoissait, le tourmentait au point de le rendre vulnérable et fragile comme un enfant. Il était, comme beaucoup d'artistes, un homme seul et compliqué, sous une apparence tranquille. Il tâtonnait, cherchait, doutait de lui jusqu'au moment où il prenait une décision. À partir de là, plus rien ne l'arrêtait. Christian, en réalité, rêvait d'un monde qui n'existe pas, un monde à inventer avec sa vie où il avait un rêve d'avance. Mais il n'avait pas imaginé le pire. qu'une passion, celle des taureaux, pourrait en tuer une autre, celle de la guitare, et le laisserait en vie, témoin impuissant de ses deux grands malheurs. Il suffit d'ouvrir les deux battants de l'armoire encastrés dans le mur pour trouver, placé à la verticale, un lit de camp tout préparé. Lorsque je le rabats à l'horizontale et que je m'y allonge, j'ai l'impression, tant il est bas, d'être couché sur le carrelage. Seules deux petites veilleuses au ras du sol éclairent faiblement la chambre. En face de moi, Christian repose sur un grand lit. J'entrevois dans la pénombre la perche fourchue sur laquelle est accroché le flacon de perfusion, puis le tuyau de plastique transparent terminé par une aiguille fixée dans son bras. Sous le lit à roulettes suspendu au cadre de fer, les deux poches rectangulaires qui recueillent le sang et l'urine des drains. Nous avons voyagé toute la matinée en ambulance, de Logroño jusqu'à Madrid, et Christian est bien plus tranquille depuis qu'il a été examiné par le docteur Garcia de la Torre, dont Maximo, le chirurgien de l'hôpital des Toreros, l'homme calme et souriant qui examine longuement en silence les blessures les plus atroces, puis murmure toujours « bien, très bien ». Ce « bien, très bien » était attendu avec impatience par tous les toreros blessés. Et le docteur, qui le sait, sourit en constatant une fois encore combien ces hommes courageux ont pourtant tellement besoin, eux aussi, d'être rassurés. « Allez, dans 8 jours, tu es debout, et dans 20 jours, tu es de nouveau devant le taureau. » Christian a reçu 2 coups de corne. Un dans la verge, l'autre bien plus grave, ne lui a pas traversé la cuisse de part en part, car la corne a heurté violemment le fémur, changeant ainsi de trajectoire. Bien sûr, c'est le premier coup de corne qui inquiète le plus Christian. Curo Vasquez, qui lui a rendu visite dans la journée, lui en a immédiatement parlé avec élégance et gentillesse. « Tu vois, a-t-il dit, j'ai eu la même chose que toi. « Ça s'est très bien arrangé, en voilà la preuve », a-t-il conclu en lui présentant ses 2 enfants. Il est tard maintenant et nous parlons encore à voix basse. Il faudrait trouver 2 taureaux avant de partir au Venezuela. « Je veux m'y remettre vite », dit-il. Ensuite, Christian finit par s'endormir. Je reste un moment éveillé, luttant contre l'envie d'aller fumer une cigarette dans le couloir. Mais, craignant de le réveiller, je ne bouge pas et je finis par m'endormir à mon tour. Soudain, dans la nuit, Christian s'est mis à hurler. « Vite, il faut faire le kit à Alain !» Je me suis levée d'un bond, affolée. J'ai cherché l'interrupteur et le cœur battant, j'ai vu Christian debout, la perfusion arrachée, retenue à son lit par le tuyau des drains. Je l'ai attrapé sous les genoux et les épaules, je l'ai soulevé, puis posé doucement sur les draps. « Ça va? Tu as fait un cauchemar !» Il était couvert de sueur et parlait difficilement. « J'ai fait un rêve. Tu étais par terre et un taureau te transperçait à coups de corne. Personne n'allait au kit. Mais j'étais dans une arène ?»« Oui, tu étais au milieu de la piste. » « Loin, très loin des barrières. »« Et toi, tu étais où ?»« Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. »« Mais je ne pouvais pas bouger et je sentais que ce taureau allait te tuer. » Christian était incapable de marcher, mais le cauchemar avait été si violent qu'il s'était levé pour venir à mon secours. Je suis allée chercher l'infirmier pour vérifier que tout allait bien. Et puis, quelques instants plus tard, rassurés, nous avons fini par éteindre la lumière. Dans le noir, Christian m'a dit « Buenas noches, Alain !»« Tu m'as fait une de ces peurs !» lui ai-je répondu. « Allez, no pasa nada. Rendors-toi et merci pour le kit. » Christian vouait une sincère amitié au banderillero Dominique Vache. Ils se connaissaient depuis l'école primaire et gardaient de leur enfance les souvenirs d'un grand nombre d'espiègleries, d'aventures, de bêtises qu'ils aimaient à se remémorer en se promettant d'y ajouter plus tard des épisodes plus drôles encore. Dominique savait raconter les histoires. Il construisait des sortes de scénarios, mimant les personnages, imitant leur voix, ajoutant, pour mieux créer le climat, de la musique et des bruitages. Son auditoire rapidement séduit, il devenait alors intarissable, improvisant à plaisir, riant de ses propres gags. Il répandait une joie communicative qui se transformait en rire, puis en fou rire inoubliable. Dominique avait été bétiériste, en même temps que Christian, toréant d'abord dans une arène portative gérée par son père avant de devenir novillero, de partir en Espagne puis, découragé, de disparaître un temps du monde de taureaux. Il avait retrouvé Christian, devenu matador, qu'il avait engagé avec joie dans sa quadrille. Comme si les années n'avaient pas passé, Dominique devint le compagnon fantasque et drôle de tous les voyages, apportant la fantaisie et la bonne humeur dans la vie dure de Christian qui poursuivait de corrida en corrida un bonheur compliqué et toujours remis en question. Dans son incroyable joie de vivre, Dominique ne savait pas toujours où devait s'arrêter le jeu. Il avait de réelles qualités. Mais il lui était difficile de se contrôler, de prendre sur lui pour s'affirmer, progresser et devenir ce que Christian souhaitait, un grand banderillero sûr et respecté. Lorsqu'en piste ou en quelques circonstances importantes de notre vie de voyage, Dominique faisait une bêtise, Christian était furieux, moins de la bêtise qu'il lui pardonnait immédiatement, que d'avoir par la suite à devenir son avocat. Je le savais, et malgré mes colères, que j'estimais largement justifiées par le danger qu'il courait dans l'arène, j'étais toujours époustouflée par les excuses dont usait si largement Christian pour le défendre alors qu'il s'y refusait pour lui-même. Lorsque Dominique était bon, Christian ravi m'interrogeait l'air faussement désintéressé. « Alors, comment tu as trouvé Vachette, ou Cabezita, ou Dominique ?» comme l'avaient surnommé les Espagnols de la quadrille. « Dominique ? Très bien. Eh, tu vois, quand il veut. Tu lui diras de vouloir plus souvent. » Christian m'expliquait alors que Dominique avait besoin de temps pour devenir un grand banderillero. Nous étions tous d'accord. Comment ne pas souhaiter une équipe où chacun tiendrait impeccablement sa place? Federico Canalarer comparait volontiers une bonne quadrille à un bateau dont le capitaine matador efficacement secondé par ses picadors et banderilleros matelots maintiendrait le cap dans l'océan dangereux de la tauromachie. Mais la métaphore était trop séduisante, l'idée trop bonne pour ne pas en plaisanter. Imaginez qui serait le cuisinier, qui aurait la charge de veiller sur les tonneaux de rhum, qui seraient les corsaires ou les sirènes, et comment les mauvais marins, jetés par-dessus bord, devraient nager des algues vertes sur la terre, la tête des crevettes ou des hippocampes dans les trous de nez. « Domenici, eres un pedazzo de cabron ?» « Dominique, tu es un enfoiré !» Et Christian, plié de rire, savourait le succès de son ami. Lorsqu'en 1989, José Luis Segura, le nouvel apoderado, imposa la réorganisation de la quadrille, excluant Dominique, Christian céda à contre-cœur, mais avec la ferme intention de le faire réintégrer sous peu dans son équipe. Tout au long de la saison, lorsqu'il arrivait qu'un banderillero ait une mauvaise journée, Christian ne manquait jamais de faire remarquer, gentiment mais fermement, « Vous voyez, ça arrive à tout le monde !» Je savais que Dominique reviendrait. Et il est revenu, mais trop tôt et bien mal. juste le temps de porter le cercueil de Christian et d'entendre à ses côtés, loin des arènes, une dernière ovation. Christian s'amusait beaucoup de la grande peur que j'avais des avions. Il se renseignait sur les compagnies aériennes, les aéroports, pour m'inquiéter davantage encore par la précision de ses descriptions. Sa grande joie, c'était lorsque, en Amérique du Sud, nous étions obligés de voyager sur des petites compagnies intérieures. Dès que nous avions enregistré les bagages et que nous attendions l'heure d'embarquer, Christian, sentant ma nervosité croissante, ne manquait jamais de me parler de pistes dangereuses, de crashs tragiques, d'appareils vétustes. Parfois, il me désignait un pilote et me disait « Regarde cette tête d'ivrogne, sûr que c'est le nôtre !» Souvent, il se contentait de me dire « Je t'offre un whisky ?» Puis il éclatait de rire en voyant avec quel empressement j'acceptais son invitation. « Je sens que tu vas souffrir, » disait-il. « Tu te rends compte si on tombe à l'eau, toi qui ne sais même pas nager ?» Au décollage, l'instant qui m'impressionnait le plus, Christian posait brusquement sa main sur mon bras, crispé sur l'accoudoir, et me disait, l'air préoccupé, « Tu entends? Il y a un drôle de bruit dans les moteurs ?» Je feignais l'indifférence, l'œil rivé sur les petits panneaux lumineux autorisant les passagers à dégrafer leurs ceintures et à fumer. Côte à côte, pendant des heures, nos voyages étaient l'occasion de longues discussions. Ces parenthèses entre départ et arrivée nous amenaient toujours à parler de la vie, de notre vie, à faire des projets, à regarder différemment les problèmes dans lesquels nous étions parfois empêtrés sur terre. Il nous semblait, dans la quiétude de ces heures de vol, que tout finirait par s'arranger. Nous puisions de l'optimisme dans ces voyages, comprenant encore mieux notre chance. Nous parlions de ce métier étrange qui était devenu le nôtre, mais uniquement pour en exalter les aspects magnifiques. Christian me questionnait sur son enfance et la mienne. Nous aimions nous remémorer les étapes qui nous avaient menés jusque dans cette vie d'aventure, qui ressemblait tellement à celle dont nous avions rêvé. Je regardais par le hublot le spectacle superbe de la mer des nuages et je pensais « la vie est belle ». Nous commandions une petite bouteille de champagne et nous fêtions, sans nous le dire, le sentiment précieux de la conscience de notre bonheur. Lors d'un vol Caracas-Bogota, l'avion avait eu un problème au décollage et un véritable vent de panique s'était emparé des passagers. L'avion semblait incapable de prendre de l'altitude. Un instant, il parut même s'immobiliser, puis se mit à vibrer dans un énorme bruit de moteur, nous terrifiant tous, y compris Christian, qui se leva et nous conseilla de le suivre dans la queue de l'avion. Federico et moi n'avions pas bougé, collés à nos sièges, effrayés jusqu'à l'apparition souriante et rassurante des hôtesses. Enfin, stabilisé, notre vol avait continué silencieusement dans la nuit jusqu'à ce que les roues touchent la piste de l'aéroport Eldorado à Bogota. Nous nous étions levés joyeux sous le regard envieux de ceux qui ne descendaient pas, continuant sur Lima et Quito. « Bon voyage, bon voyage !» leur disait Christian déchaîné en gagnant la sortie. C'est dans la queue des avions qu'il y a quelquefois des survivants, répétait-il encore dans le taxi qui nous ramenait à l'hôtel. Pensez-y demain. Accoudé au balcon du 10e étage, je rêvassais en fumant devant les lumières de la ville. Christian s'était approché derrière moi sans faire de bruit, m'avait saisi par les jambes et avait fait basculer la moitié de mon corps dans le vide avant de me reposer et de s'enfuir en riant. Terrifié puis furieux, je l'avais poursuivi d'une pièce à l'autre, sautant par-dessus les lits et les tables basses du salon. J'avais fini par me calmer. Il fallait bien se reposer quelques heures, puisque nous devions voyager tôt sur une compagnie Sam, S-A-M, que Christian, pour m'aider à m'endormir, avait baptisé Samu. Au matin, en survolant Medellin à basse altitude, nous passâmes au-dessus des arènes où Christian devait toréer le lendemain. En apercevant les petites taches noires des taureaux, je sentis que j'avais là ma vengeance. « Christian, regarde les chorales, les taureaux sont énormes !»« Que pitones !» Il se pencha immédiatement vers le hublot, inquiet, et je pus à mon tour éclater de rire. « Un partout, cabron !» Mexico, 28 janvier 1979. Une demi-heure avant le début de la corrida, la voiture de quadrille arrive en vue des arènes. Posée sur sa planche à roulettes, levant ses bras musclés, les mains sanglées dans des gants de cuir noir, le cul de jatte attend la voiture des toreros, 30 mètres avant l'entrée de la Plaza México. Matador, matador, on fait la course jusqu'à l'entrée ? Dit-il à Christian qui s'est arrêté à sa hauteur pour lui serrer la main. « D'accord, on y va. Une, dos, tres. » Notre chauffeur fait rugir le moteur et la course commence. La planche à roulettes démarre en zigzag puis prend de la vitesse, propulsée par les bras si puissants de l'infirme qui martèle le sol de ses mains et passe le premier en hurlant sous l'imposant groupe de taureaux et de chevaux en bronze qui surplombent la porte principale des arènes. La foule applaudit à tout rompre. « Matador, matador, j'ai mérité l'oreille, » dit-il. « Las dos y el rabo, fenomeno, » lui répond Christian. « Gracias, matador. Suerte, mucha suerte. » Entre les grilles du portail qui se referment, Christian fait un signe de la main et sourit une dernière fois à l'homme essoufflé. La voiture s'enfonce dans le tunnel qui descend en spirale jusqu'à la piste et l'obscurité nous ramène brutalement au taureau. Vivitante, le taureau de la confirmation d'alternative était trapu, la tête comme enfoncée dans les épaules. Je craignais cette absence de coup. Le taureau risquait de garder dans les charges sa tête à mi-hauteur, interdisant de torer par le bas et de lier lentement les passes, unique façon de plaire à l'exigeant public de la capitale. Christian, très impressionné par les arènes géantes, était tendu, nerveux. Il craignait plus que tout l'échec. Lorsque Manolo Martinez et Damaso González lui confirmèrent l'alternative, il n'entendit qu'une tiède ovation de pure politesse. Avant, avec la cape et les banderilles, après, avec la muleta et l'épée, un silence glacial, entrecoupé de quelques sifflets impatients, accompagnèrent son travail. Le taureau gardait la tête haute, donnait des coups de corne, ne permettait rien d'autre que de courtes séries de passes rapides et inintéressantes pour le public. Ce silence persistant provoquait chez Christian un découragement qui marquait durement son visage. Lorsqu'il revint à la barrière après la mort de ce premier taureau, il me confia d'une voix lasse. Je suis fini. Je crois que je suis usé, incapable. Mais non, Christian, pas du tout. Tu as bien vu que le taureau ne valait rien, qu'il chargeait mal. Il ne donnait même pas l'impression d'être dangereux. Comment voulais-tu faire une faïna qui te plaise et accroche le public? Attends le second, sois confiant. Je suis sûre que tu vas avoir de la chance. Christian avait l'air malade. C'est trop dur, j'en peux plus. Jusqu'au dernier taureau de la journée, sombre, il n'était retourné en piste que pour placer les taureaux face aux chevaux des picadors. Il n'avait même pas essayé de faire le moindre kit pour se remettre en confiance ou tenter de retourner la situation. Le public avait été très dur, froid et injuste avec Damasso, qui avait pourtant pris des risques considérables face à deux taureaux impossibles. Manolo Martinez avait peiné, lui aussi, pour tenter sans succès d'intéresser le public, décidément de très mauvaise humeur. Mais Manolo et Damasso ne montraient rien de leur déception. Impassibles, presque indifférents, ils commentaient en quelques mots l'absence de qualité des taureaux, puis se taisaient, comme étrangers à ce climat hostile. Au quatrième taureau, distrait et fuyard, Manolo Martinez avait pris tout son temps. Il se déplaçait lentement, cherchant le meilleur terrain, la meilleure distance. Les sifflets du public semblaient ne pas le déranger. Soudain, alors que plus personne ne s'y attendait, il avait réussi à faire perdre son calme à ce taureau et avait lié sans bouger d'un centimètre trois longues passes au ralenti qui avaient fait rugir les arènes. Devenu attentif, le taureau, si distrait jusqu'alors, regardait maintenant fixement la muleta. Son comportement changea spectaculairement. Il s'élança avec force et Manolo Martinez, un sourire au coin des lèvres, broda sur cette série de charges des passes magnifiques, majestueuses. La reine était au rouge vif et depuis le Calejón, nous ressentions tous l'émotion de ces olés interminables scandés par des dizaines de milliers de spectateurs. Il tua bien et une oreille à la main entreprit un lent tour de piste sous une pluie de sombreros. Christian, qui n'avait pas dit un mot pendant toute la faïna, murmura avec infiniment de tristesse « C'est un grand torero ?» Le sixième taureau avait été, comme les précédents, débaptisé et s'était vu affublé d'un nouveau nom. Buen Pastor, en l'honneur du pape en visite à Mexico, et dont la presse avait un peu hâtivement annoncé la possible venue aux arènes. Buen Pastor avait une charge magnifique. Il démarrait lentement, augmentait progressivement sa vitesse, puis de toute sa rage poursuivait Christian qui banderilla trois fois, dessinant trois immenses demi-cercles au bout desquels les cornes sur la poitrine, il clouait des banderilles rouges et argent qui restèrent jointes et verticales sur le garrot de l'animal. Le public se leva pour une ovation délirante. Avec la muleta, Christian, enfin libéré, toréa le corps très droit, lentement, les mêmes basses, et chaque passe était ponctuée d'un olé sourd qui devait, comme à nous, lui donner la chair de poule. Le taureau ne garda pas longtemps son agressivité et finit par se réfugier le long des planches, refusant le combat. Mais la partie était gagnée. Le public applaudissait à tout rompre. Christian se sentait à nouveau torero. Avant le tour de piste, les journalistes lui disaient « Bravo torero, tu as trouvé le rythme et le goût du public de Mexico ». Dans la voiture qui nous ramenait à l'hôtel, Christian rayonnait de bonheur et demandait à ses banderiers de rosemesqui mexicains « J'espère que je vais retorer ici ». Mucho matador, mucho años, si Dios quiere. Parfois, une voiture nous doublait et les occupants sortaient le bras de la portière, secouant leurs poings fermés et criaient à Christian « Nimeño, eres muy bien torero. Hasta pronto !» Fixé sur de petits écussons de bois, Christian gardait naturalisé les oreilles coupées dans les arènes de Mexico. Lui qui n'attachait pas d'importance au trophée, qui donnait sans regret les costumes de ses après-midi de triomphe, qui ne gardait pas les coupures de presse et ne s'intéressait aux photos et aux films de ses corridas que pour les étudier sur un plan technique, voulait peut-être, avec cette expression, se souvenir toujours de l'arène où il s'était cru perdu. Mexico, mars 1982. Au deuxième pinchazo, Christian secoue la tête, serre rageusement le poing avant d'aller reprendre l'épée que le banderillero lui tend. Il se replace face au taureau, l'épée pointée sur le garrot, et son visage se durcit. Il laisse tomber la moulette à ses pieds comme un tapis sur lequel il marche pour aller se jeter entre les cornes, enterrant l'épée jusqu'à la garde. Le choc est violent. Christian est soulevé du sol, mais il se redresse et s'immobilise, les bras levés, pendant que le taureau, un instant figé, tousse, baisse la tête, tressaille puis tombe lourdement sur le côté, mort. Christian ferme les yeux une seconde, et les rouvre pour voir tout le public debout. Les toreros et les invités sont debout, accrochés les uns aux autres à l'arrière de la jeep. À leurs pieds, deux longs pains de glace enveloppés dans des sacs de jute et pêle-mêle, les capes, les mouletas, les épées, les caisses de bière, des lassos et tout un bric-à-brac de paquets et de boîtes. Le ganadero est au volant. Il semble prendre plaisir à faire tanguer son véhicule et ses passagers sur le sentier caillouteux et sinueux, bordé d'une double rangée d'énormes cactus candélabres. Nous partons vers la petite arène que nous apercevons au loin, minuscule, sur le flanc de la colline. C'est là que nous passerons toute la journée pour tienter des vaches et un taureau. Derrière nous, Christian et un groupe de cavaliers nous suivent, le visage enfariné de poussière. Soudain, ils poussent des cris aigus, lancent leurs chevaux au galop et s'engagent dangereusement dans l'étroit passage entre la voiture et les cactus. « Se van a partir la madre !» crie le ganadero. « Ils vont se casser la gueule !» Christian et les cavaliers passent en trombe, puis se retournent en hurlant de joie, ravis de nous voir, à notre tour, croquer la poussière. Nous traversons maintenant un sous-bois sec et sablonneux. La chaleur est torride. Soudain, une idée inquiétante me traverse l'esprit. Si quelqu'un, aujourd'hui, venait à être blessé dans ce désert, si loin de tout secours et de tout médecin ? Nous apercevons enfin distinctement les murs circulaires de la petite arène, faits d'un entassement de gros cailloux noirs. La piste est couverte d'herbes jaunes que j'imagine craquantes comme des chaumes. Dans une étroite bande d'ombre, le long du mur des corrales, des femmes sont assises. Elles surveillent un grand chaudron noir posé sur quatre cailloux dépassant d'un lit de braise dans une délicieuse odeur de viande mijotée. Des petits piments verts affleurent à la surface de la sauce brune. Finement découpés, la viande et les abats du cochon tué le matin même finissent de cuire dans le sang, les épices et les herbes. Une paysanne tourne lentement le ragoût avec une perche de bois. Nous prenons place sur les pierres brûlantes de la petite arène et dans le silence, la tienta commence. Autour de nous, à perte de vue, une mer de cactus et mêlée au chant des oiseaux, le meuglement d'un taureau invisible dans le lointain. Et puis, la voix étrangement douce du picador qui vous voit la vachette. « Venez, venez prendre une autre petite pique !» Vaillante, elle s'élance, puis pousse de toutes ses forces, insensible à la pique qui lui blesse le garrot. « Vous voyez, lui dit le picador souriant, ce n'est pas si difficile. » Les toreros et leurs capes disparaissent dans les burladeros pour laisser sortir le taureau. Il est fort, musclé et puissant. Très brave, il charge avec impétuosité. Le silence est total lorsque le picador le provoque de loin. « Toro, vengase por favor !» Et lorsque, après une course de 10 mètres, il vient encore une fois s'écraser sur le cheval du picador, l'éleveur exalté se lève. « Que toro, Dios mío! Que toro! Nimeño, lo vas a torear ahora! » Tu vas voir, il va être immense. Christian, en effet, profite de la charge magnifique pour lier d'interminables séries de passes. Comme toujours, lorsque les choses se passent bien, je suis émue. Christian et le taureau ne se quittent pas des yeux. Nous sentons confusément qu'une sorte de grande et belle harmonie nous lie tous étroitement les uns aux autres. « Gran toro, gran torero !» crie l'éleveur déchaîné. Nous faisons une première longue pause avant de continuer la tienta. Les bouteilles de bière ne sont pas encore bien fraîches et nous sommes nombreux à nous rabattre sur le tequila. Le ragoût est brûlant, piquant, délicieux. Nous en remplissons nos tortillas de maïs et mastiquons avec un appétit féroce, les lèvres en feu. L'éleveur perçoit Christian qui boit de l'eau. « Matador, tomes un tequilito !» Même sous, un bon torero reste un bon torero, plaisante-t-il en lui tendant un verre. Christian est rayonnant de bonheur. Il a pris une guitare, il joue et il chante avec tout le monde. Il mâche du citron vert, boit du tequila en riant à pleines dents. J'ai oublié mes inquiétudes. D'ailleurs, tout le monde se fiche complètement de ce qui peut bien arriver. On est bien, très bien. Viva México y viva los toros! Lorsque nous remontons dans la voiture, la tienta finie, Christian et les vaqueros galopent follement devant nous. Ils font la course. J'ai le sentiment, avec cette merveilleuse journée, que la chance est avec nous et que de formidables aventures nous attendent. Arrivés au rancho, l'éleveur ne veut pas nous laisser repartir avant d'avoir bu un dernier verre et nous avoir décrit dans le détail la formidable vie du taureau qu'il gardera comme étalon et dont l'occupation désormais consistera à courtiser les vachettes. Bien plus tard, nous finirons par remonter dans notre voiture et rentrer à Mexico. Sur la route, Christian s'arrête pour acheter d'énormes lechosas. Il est allé discuter avec le marchand assis sur le bord de la route, à côté de sa montagne de fruits. Je le vois sortir des billets et ramener deux par deux 10 lechosas grosses comme des citrouilles. Nous ne savons plus où les mettre. Chacun, sauf le chauffeur, en a une sur les genoux, une à ses pieds. D'autres sont entassés sur la lunette arrière et s'écroulent sur nous au moindre coup de frein, ce qui nous fait hurler de joie. Dans la nuit devant l'hôtel Palace à Mexico, Christian a trouvé un couteau et tient absolument à nous faire goûter son achat, dont il nous a vanté pendant tout le parcours le goût exquis et les vertus digestives. À minuit, abrutis de fatigue et d'alcool, nous montons nous coucher. Le lendemain matin, en me levant encore un peu étourdi, je trouve le lit de Christian vide et je bute sur un parfait alignement de lechosas qui commence devant le poste de télévision et barre toute la pièce, y compris la salle de bain, en un parfait demi-cercle. Christian, il est déjà parti à l'entraînement. Les arènes de divers pays accueillent Christian. On voit qu'on est en 1979, en janvier. C'est à Mexico que le matador va torer et il y reviendra en mars 1982. Et les arènes et les performances défilent. Mérida sera bientôt une nouvelle destination. Nous la retrouverons dans notre prochaine lecture. À bientôt, chers auditeurs, pour la suite du livre « Recouvre-le de lumière » d'Alain Moncouquiol, Verdier de Poche. N'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.
Soutenez notre association en adhérant sur radioalliance+.fr.